Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard. Vous écoutez le Sans détour du 6 janvier 2025. Ah ben d'abord, on vous souhaite une très bonne année et on espère que vous avez passé un délicieux temps des fêtes. Et c'est souvent, comme la veut la tradition, le moment de se retourner et de voir le chemin parcouru l'année dernière en 2024. Et pour ça, on vous a concocté une petite émission spéciale avec les meilleurs moments de l'année 2024. Nous aurons le plaisir de discuter, entre autres, avec Élise Duchesne, professeure titulaire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Nous parlerons d'une avenue prometteuse pour épurer et rajeunir les muscles de personnes atteintes de dystrophie. Faire du bien, un logement à la fois, un portrait de En Logement, un organisme qui offre des logements à prix modique aux personnes handicapées, et ça partout au Québec. Annick Roy-Trudel va nous entretenir là-dessus. Les barrières structurelles qui retiennent les femmes handicapées victimes de violences conjugales, c'est un sujet lourd, mais que l'on ne peut pas mettre de côté. Martine Lévesque, professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal, est avec nous pour en discuter. L'organisme de Charlevoix-la-Marée lance un outil de capsule vidéo vraiment chouette. Cathy Bergeron, la directrice générale de l'organisme, va en discuter avec nous tout à l'heure. Isabelle Ducharme nous a présenté le projet pilote de Taxi Adapté, une initiative qui offre une solution de transport adapté à Montréal. On a hâte d'entendre parler des suites. C'est avec Isabelle Ducharme de Kéroul. Et enfin, nous avons eu le plaisir de rencontrer Patrice Dagenais, athlète et co-capitaine de l'équipe canadienne du rugby en fauteuil roulant. Ouf! Tout ça en 2024! Alors, on fait un petit tour avant d'amorcer 2025. La prochaine demi-heure, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voilà, c'est pour la prochaine demi-heure. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie, pour le premier segment, Mme Élise Duchesne. Bonjour, Dr. Duchesne.
Bonjour.
Vous avez collaboré à une équipe transuniversitaire dont, entre autres, faisait partie Nicolas Dumont, professeur à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal. Vous-même, vous êtes à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et toute cette recherche tourne autour d'une maladie à la fois terrible, mais jusqu'à maintenant, en fait, incurable, la dystrophie myotonique de type 1.
Exactement.
Et là, il y a des avenues prometteuses. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que la dystrophie myotonique de type 1?
Alors, la dystrophie myotonique de type 1, qu'on peut appeler DM1, est une maladie héréditaire qui est dominante, c'est-à-dire que lorsque un des parents est atteint, l'enfant à naître a une chance sur deux d'être lui aussi atteint. Donc, c'est une maladie qui se transmet de façon génétique. Et la maladie est multisystémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs systèmes du corps qui présentent des altérations.
Et dans ce sens-là, il va y avoir toutes sortes de, il va y avoir toutes sortes de symptômes ou de manifestations. Donc, c'est une maladie qui est hétérogène. Là, c'est pas si facile à retrouver.
Exactement, c'est-à-dire que le système cardiaque peut présenter des problèmes, le système respiratoire, endocrinien, digestif et le système musculaire qui a fait plus précisément l'objet de notre étude.
D'accord. Et ça, c'est votre étude a lieu entre autres, surtout en fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a une particularité démographique.
Oui, tout à fait. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a un effet qu'on appelle l'effet fondateur, c'est-à-dire que lorsque cette région a été colonisée par les Français, les personnes qui sont arrivées dans la région, en fait, présentaient un bagage génétique qui était très homogène, c'est-à-dire peu de différence entre les individus. Et lorsqu'il y a peu de différence et qu'il y a présence d'anomalies, ces anomalies-là s'expriment davantage auprès des descendants. Et on a connu une forte colonisation. Donc, plusieurs personnes sont nées d'union des très grandes familles. Oui. Et ça a fait en sorte que ces défauts-là ont été transmis à un grand nombre de personnes. Et Saguenay-Lac-Saint-Jean est connu pour son effet fondateur. Donc, on ne parle pas de consanguinité. Donc, c'est pas...
C'est un mythe, là, des gens qui sont loin, qui disent que tous les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont des... Non, ça, c'est pas vrai. Mais il en demeure pas moins que la prévalence de la DM1, c'est 1 sur 500 au Saguenay, alors que c'est 1 sur 8000 ailleurs sur la planète. Alors, c'est une concentration importante.
Oui, c'est une concentration importante de patients. Et l'autre caractéristique, c'est que le Saguenay a été longtemps... un peu considéré comme étant une île, c'est-à-dire là, on a le parc des Laurentides là, qui était une voie qui est très bien praticable, mais si on remonte à 10-15 ans, c'était hasardeux de s'aventurer dans le parc des Laurentides. Donc, les gens qui vivaient au Saguenay-Lac-Saint-Jean restaient dans la région, donc il y avait peu de mouvements migratoires. Donc, ces gens-là, ça a mené à une concentration là assez importante de cette maladie-là, ce qui a comme caractéristique de nous aider, nous, les
voilà.
Dans l'étude de ces maladies-là en raison de la concentration.
Bon, ben maintenant qu'on on a, si je peux dire, débroussaillé le terrain, puis on comprend un peu de quoi il en retourne. Maintenant, parlons du positif. Le fait d'avoir beaucoup de patients, ça vous a permis de mener une recherche pointue, efficace.
Oui, tout à fait. La recherche s'est déroulée en deux temps, je dirais. Bien avant mon arrivée dans la région, il y avait déjà une étude qui était en place, une étude, on appelle ça une étude d'histoire naturelle de la maladie. Donc, on recrute un grand nombre de participants et on évalue là, plusieurs systèmes de leur corps pour voir c'est quoi la sévérité des symptômes qu'ils présentent. Et lié à ça, il y a des prises de sang qui ont été prises chez ces patients-là aussi pour dire on va biobanquer ce sang-là, on va mesurer certains éléments précis à ce moment-là sans trop savoir si ça peut nous servir un jour, mais on aura des données déjà de collecter qu'on place dans une biobanque. La deuxième étape de cette aventure-là est quelques années après mon arrivée. Donc, je voyais les problèmes musculaires que vivaient les patients. Ça m'a mené à une hypothèse là, que je souhaitais valider vraiment au niveau des cellules souches des muscles. Donc, à ce moment-là, j'ai contacté mon collègue Nicolas Dumont, qui est un spécialiste de l'étude des cellules souches. Il travaillait pas du tout en dystrophie myotonique de type 1, mais on a parlé de mon hypothèse, on a parlé de comment son expertise pouvait répondre à cette hypothèse-là, puis comment qu'on pouvait collaborer pour aller confirmer l'hypothèse. Donc, on a développé ce projet-là avec un recrutement là, qui a eu lieu là, de patients en 2019. On a recruté des patients et ont été assez généreux pour qu'on
accepte
la biopsie musculaire, qui est un prélèvement de muscles, littéralement, là, dans la cuisse du patient. Suite à ça, on a étudié les cellules souches de ces patients-là pour se rendre compte que finalement, on est en train d'identifier une signature moléculaire qui était spécifique à la maladie.
Ils ont tous, même si les symptômes peuvent varier, ils ont tous quelque chose en commun.
Oui, c'était quelque chose de nouveau qui est connu dans d'autres maladies, mais qui n'avait pas encore été identifié en DM1, c'est la sénescence musculaire. Donc, c'est le fait que ces cellules-là deviennent trop vieilles, trop vite.
Okay.
Donc, puis quand les cellules rentrent dans le processus de sénescence, elles se mettent à sécréter des facteurs inflammatoires de façon anormale. Donc, elles intoxiquent un peu leur environnement.
D'accord.
Donc, tout ça explique pourquoi que les patients ont des problèmes au niveau musculaire. Donc, là, nous, on l'étudie au niveau fondamental, mais on est allé raccrocher ça à ce qui avait été fait 20 ans auparavant où le muscle avait été grandement étudié au niveau clinique et qu'il y avait des prises de sang qui avaient été prises et dans lesquelles certains marqueurs avaient été mesurés. Donc, on est vraiment parti du fondamental chez une quinzaine d'individus pour aller rechercher les résultats cliniques qui avaient été identifiés 20 ans auparavant, mais dans une grande cour. Donc, dans une cour de 103 individus. Puis ce mariage-là entre le clinique et le fondamental nous a permis de confirmer l'hypothèse. Donc, on est vraiment parti du plus petit. On est retourné au niveau clinique qui nous a permis de raffiner l'hypothèse et de retourner ensuite au niveau fondamental. Donc, c'est vraiment là en raison de l'implication importante des patients.
Oui, bien, c'est ça. Il y a 450 patients qui ont été recrutés et qui ont généreusement participé parce qu'il faut comprendre que s'ils sont atteints de la maladie, leur journée, leur quotidien n'est pas toujours facile. Là, maintenant, avec les données que vous avez amassées, puis le raisonnement qui s'avère être juste, est-ce qu'on a des pistes de solutions, de traitement un jour?
Oui, oui. En fait, la nouvelle avenue thérapeutique que nous, on a ouvert, je dirais, en DM1, est une avenue qui existe déjà dans d'autres maladies. Donc, la beauté de la chose, c'est qu'il y a déjà des médicaments qui existent pour ça, dont les indications sont pour d'autres maladies.
Et qui peuvent être recyclés pour s'attaquer à cette maladie-là. Donc, c'est déjà quelque chose qui pharmaceutiquement existe.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des étapes de validation qui doivent être faites là. Approuver une médication pour une maladie donnée, c'est un processus qui est très strict là. Donc tout ça reste à faire, mais vous avez raison de dire que la pharmacologie derrière, elle existe déjà.
Oh, bravo. Alors ça, ça y est pour beaucoup, parce que souvent la recherche d'un médicament qui est spécifique à une maladie, là, c'est très coûteux et ça peut être encore plus long. Donc ça donne une piste. Est-ce que parmi est-ce qu'il y a des gens qui commenceront bientôt des tests préliminaires pour voir si comment vous allez fonctionner? Est-ce que ça commence par les souris ou par les patients?
Oui, ça commence. En fait, la recherche, on peut la diviser en deux grands volets. Il y a la recherche académique, ça, c'est ce que moi je fais avec mes collègues.
D'accord.
Et il y a la recherche clinique, recherche pharmaceutique.
Sur le terrain,
donc, oui. Oui, c'est ça. Donc, nous, le but de la recherche académique, c'est de faire avancer suffisamment les connaissances pour arriver avec une nouvelle avenue thérapeutique. Et là, après ça, on tombe dans le champ de la recherche clinique. Là, on est dans le privé, dans le pharmaceutique, qui, eux, vont reprendre les idées qu'on a générées pour voir s'ils peuvent développer un médicament. Donc, rendu là, nous, ce qu'on va faire d'un point de vue académique, c'est aller raffiner davantage l'hypothèse. C'est-à-dire qu'on a observé le phénomène, là, on va essayer de le comprendre encore plus, on va publier nos résultats pour aller alimenter, pour aller, en fait, augmenter les connaissances dans cette maladie-là pour que les pharmaceutiques, puis là, il y a un mur de Chine entre les deux, là. Nous, on est impliqués dans les pharmaceutiques, donc pour qu'eux, ils aient suffisamment d'éléments pour aller développer une drogue dont ils seront responsables.
D'accord. Ben c'est sûr que parmi tous les facteurs, tous les symptômes, pardon, les manifestations de la DM1, les problèmes musculaires sont presque au premier rang, là. Et ça va permettre peut-être aussi de pallier à d'autres symptômes qui sont inhérents à la maladie. Alors, bravo. C'est sûr qu'on espère que tout ça débouche bientôt, un jour, sur un traitement là, et une forme de ralentissement de la maladie. Ben, merci beaucoup, Mme Duchesne. Vous avez du travail encore devant vous. Là, vous en avez fait pas mal, mais il en reste encore un peu. Mais ça fait une différence dans la vie de beaucoup de gens. Puis, on est content de voir que cette concentration au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, en fait, peut avoir un bon côté.
Voilà. Oui, tout à fait. Puis l'implication des participants de recherche là, est incroyable. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on a été capable de mener des travaux d'envergure.
Voilà, tout à fait. Et encore une fois, là, ben, on les remercie parce qu'ils font ça, pas juste pour eux, ils font ça pour beaucoup d'autres gens.
Oui, ils nous le témoignent souvent qu'ils font ça pour l'ensemble de la communauté, donc ils sont très généreux de le faire.
Ben c'est super. Merci beaucoup. On a hâte d'avoir des nouvelles.
Merci.
Écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Et avec Mme Annick Roy-Trudel, présidente et chef de la direction de l'organisme En Logement 1 avec un H-H-A-N. Bonjour Mme Roy-Trudel, comment allez-vous?
Très bien, bonjour M. Beauregard.
L'organisme est basé à Magog, mais maintenant vous rayonnez partout en province. On va y revenir, mais j'aimerais qu'on parle de comment tout ça a commencé, parce que ça fait déjà plus de 20 ans.
Oui, ça fait effectivement 22 ans qu'on est en affaires, que l'organisme a été créé. À la base, c'était M. Paul Champagne qui s'occupait de l'organisation, qui est encore présent là, et qui, jusqu'à tout récemment, gérait l'entreprise. Donc, ça a commencé à Magog. Dans le fond, il y a des gens qui avaient des besoins très spécifiques au niveau d'un immeuble qui serait adapté à leurs besoins. Ils cherchaient des moyens de le réaliser. C'est comme ça qu'ils ont approché, dans le fond, M. Champagne et que l'organisation est partie. Ça a été le premier projet. Ça a très bien été. Donc, l'organisme est revenu.
Il y avait encore des besoins.
Oui, il y avait encore des besoins. Ça a été un bon succès. C'est un petit peu la recette dans notre genre. C'est un organisme à but non lucratif, mais on essaie d'opérer avec la vitesse et l'efficacité du privé. Oh. Puis on y arrive. Donc, c'est le fun parce que d'habitude, en fait, pour tous nos projets, quand on dit dans 12 mois, ça va être disponible pour location. Bien, dans 12 mois, les logements sont disponibles, puis on est en train là, d'installer des locataires. Donc, on est très, très bon de ce côté-là, de respecter nos échéanciers, ce qui peut être rafraîchissant là, dans le milieu.
Oui, ben ça, c'est ce que j'allais dire, parce que souvent, pour toutes sortes de questions, que ce soit le financement, que ce soit aussi la conception, mais vous devez avoir comme des modèles, vous ne devez pas reprendre tout ça à zéro à chaque fois. Parce que vous avez appris comment faire des logements adaptés à prix modique, parce que c'est essentiellement c'est votre mission de faire ça. Puis donc vous avez un livre là de recettes.
Oui, on a un livre de recettes ou une recette gagnante. C'est sûr que dans les années ça allait évoluer, mais nous on revisite un peu notre modèle une fois de temps en temps, mais en gros c'est toujours le même plan, le même type d'habitation qu'on va construire. On fonctionne beaucoup par exemple avec des immeubles de 8 logements.
D'accord.
Les deux du bout c'est des 4,5, à l'intérieur c'est 3,5, des logements plein pied, sans seuil. Pour que l'accessibilité là, soit vraiment optimisée, avec des très beaux finis, très, très beaux aussi à l'intérieur. On inclut plus de 50 adaptations également,
oui,
pour notre clientèle. Donc, mais oui, c'est toujours la même recette qu'on réplique. On va l'améliorer toujours, on est toujours à l'écoute pour optimiser, mais les gens avec qui on travaille, notre architecte, nos contracteurs aussi, sont capables d'optimiser les coûts parce qu'ils font plus qu'une fois le même type de logement,
exactement,
la même recette. Donc, puis nous, ça nous permet d'être très, très bon dans nos prévisions justement de coûts et de temps parce qu'on l'a déjà fait dans le passé. Donc, ça l'aide de ce côté-là. Puis ça rassure bien sûr tous les gens, là, les donateurs, les financiers qui vont investir dans le projet de savoir qu'on va être à temps et dans les coûts.
Bien, en parlant de donateurs puis de financiers, comment fonctionne votre structure financière parce que vous êtes un organisme à but non lucratif? Est-ce qu'à chaque projet, vous faites une levée de fonds? Comment vous financez-vous vos projets?
Nous, ça commence d'habitude avec les villes. Soit qu'on approche les villes ou on se fait approcher par les villes, on commence à avoir du rayonnement. Puis si la ville est intéressée à avoir un immeuble ou plusieurs immeubles qui sont adaptés là, aux besoins des personnes handicapées sur leur territoire, et bien sûr à coût abordable, on demande le don d'un terrain. Donc, habituellement, la ville va nous céder, sans frais, un terrain sur lequel nous, on s'engage à construire un ou plusieurs immeubles. Ensuite, ça, c'est la première morceau, si on veut, de
première pièce du puzzle.
Oui, qui nous aide à avancer. Ensuite, on va avoir des donateurs ou des organismes qui vont nous donner. D'habitude, on va chercher un autre, je dirais, 250 000 $ qui nous permet d'avancer. On est aussi appuyé par du capital de risque. Donc, on a des partenaires de ce côté-là qui, étant donné notre mission, étant donné qu'on fait du logement abordable, sont prêts à nous prêter du capital de risque et du capital patient. Donc, qui nous permet également là, d'optimiser nos coûts. Puis finalement, sur la balance, on va aller chercher là, une hypothèque. Puis également, encore une fois, étant donné qu'on est un organisme au niveau du logement abordable et sans but lucratif, on est capable d'aller chercher quand même des taux et des conditions hypothécaires qui sont intéressantes. Ça fait que c'est un petit peu le montage rapidement.
Comment tout ça tombe en place? Parce que un projet en moyenne, c'est quoi le coût? Bien évidemment, c'est sûr que si le terrain est gratuit, ça fait une grosse différence. Le coût moyen par le bloc de 8 logements, là, ça.
Bien, le coût de 8 logements, incluant le terrain, ça serait 2 millions. Fait,
d'accord.
Dans le fond, on se fait, puis c'est ça, le terrain, on évalue selon
la ville.
La ville, ça va être entre 250 et 300 000 $ que ça vaut, mais on l'inclut dans le 2 millions. Mais nous, on évalue, c'est à peu près 2 millions construire un immeuble de 8 logements. Donc, c'est quand même assez bien là, au niveau là, du coût par porte. Puis là, c'est sûr qu'on peut avoir des économies là, si on en fait plusieurs, mais comme je vous disais, c'est ça, environ
la personne est montée.
Oui, puis on est, comme je disais, assez bon. Fait que ça fait un coût pour 250 000 $ par porte. On a cet immeuble-là. Mais par contre, c'est ça, il y a une partie qui est donnée. Fait que c'est sûr qu'après, ça nous permet, nous, de gérer l'immeuble puis d'avoir un modèle qui est pérenne sur plusieurs années. Donc, on essaie toujours de penser quand on construit puis qu'on finance, puis qu'on organise un peu nos projets, qu'on soit capable sur 50 ans de voir que ça fait du sens puis qu'on va être encore là, dans le fond, là, pour gérer, entretenir, que ça va être en bon état puis qu'on va pouvoir continuer d'accueillir des locataires.
Parce que avec le temps, plus vous mettez sur pied des projets, que vous les ameniez à aboutissement, dis-je, ben là, vous devenez des gestionnaires d'immeubles. Aussi, vous avez combien d'unités maintenant en Estrie et ailleurs?
On a en ce moment 192 logements qui sont répartis dans 30 immeubles, principalement en Estrie. Puis là, on a commencé vraiment du côté là, du bas du fleuve.
Exact.
On a un 66 logements qui va être disponible entre maintenant puis le 1er juillet. Donc, on est justement en période où on est en recherche de locataires. Donc, s'il y a jamais des auditeurs qui sont intéressés.
Je pense pas que vous ayez besoin d'aller loin pour en trouver. Il y a certainement une grosse demande pour ça. Votre clientèle, c'est des personnes qui sont à mobilité réduite, soit parce qu'ils vivent avec un handicap ou parce que c'est des personnes âgées et tous les logements ont le même type d'adaptation. Là, c'est assez universel comme design.
Oui, nous, au niveau de la clientèle, on couvre là, principalement les personnes qui ont un handicap physique, intellectuel ou qui connaissent un trouble du spectre de l'autisme.
D'accord.
Aussi connu là, sous TSA. Ce sont des personnes qui sont autonomes ou semi-autonomes.
D'accord.
Parce que c'est bien important de le comprendre. Nous, nos logements sont supportés par un excellent service à la clientèle au niveau de l'immeuble et la gestion de l'immeuble, mais on n'offre pas les services. Donc, les services sont offerts par la communauté, par le CLSC et les organismes locaux. Donc, c'est pour ça que notre clientèle, c'est vraiment une clientèle qui est autonome ou semi-autonome, qui va recevoir des soins à la maison, mais il faut que la personne soit capable de vivre seule.
Exact. Et c'est des personnes aussi qui sont admissibles à des programmes de supplément au loyer pour que le loyer qui va
abordable.
Être versé soit abordable, que ça ne dépasse pas, mettons, un ratio de 25% de leur capacité de payer. Ça, c'est important d'être à la fois adapté et abordable. Là. C'est les deux font partie de la solution.
De l'équation, oui.
Exactement. Alors là, vous commencez à développer en assez loin de Magog, là, si vous êtes à Rivière-du-Loup, puis tout ça. Est-ce que c'est une question de terrain abordable aussi, il y a ça?
Bien, c'est une question de demande, de terrain abordable, d'espace, mais c'est surtout nous, le plus gros la plus grosse motivation, je dirais, à aller dans un nouveau pôle, c'est quand on a l'appui de la communauté, quand
D'accord.
on a des maires, des DG, des gens, des organismes dans une communauté qui sont motivés, qui sont déjà mobilisés. Parce que nous, ça fait le succès du projet. On a fait assez pour savoir que quand on a un maire, des organismes, un directeur général qui sont alignés, qui sont intéressés pour le projet, qui sont prêts à un peu enlever des obstacles, nous aider à progresser. C'est ça qui fait qu'on est capable aussi d'arriver dans les temps et dans les coûts. C'est important que la communauté, dans le fond, soit mobilisée et intéressée pour le projet. Donc, un petit peu la raison de notre présence dans le bas du fleuve. Et puis là, on commence à regarder aussi au niveau de la Gaspésie. On a eu des demandes puis de l'intérêt. Beaucoup de municipalités où on était là, extrêmement bien reçus ou même qui sont venus.
Ils sont venus vous voir parce que
si
vous commencez dans une région, les municipalités avoisinantes vont être curieuses. Les administrations, comme vous dites, les directeurs, directrices générales vont être curieuses de voir comment ça fonctionne. Après 190 logements, on peut dire, ben là, c'est pas des fly-by-night. Ah, ils savent ce qu'ils font. À ce moment-là, ben ça fait boule de neige. Quand vous parlez de... Il y a des logements qui vont être bientôt disponibles dans le bas du fleuve. Comment on fait pour s'inscrire? Elle est où, la liste d'attente?
Ben, les gens peuvent aller dans le fond, là, sur notre site web qui est le annelogement.org. Puis il y a toutes les coordonnées dans le bas du fleuve, plus précisément. Là, donc, c'est une dame qui s'appelle Annie Lévesque qui s'occupe dans le fond de notre service client. Puis c'est ça, il y a ses coordonnées là, dans le fond au niveau du site web. On peut lui écrire, on peut l'appeler. Son numéro de téléphone, là, si vous permettez que je le donne,
ça ben, allez-y.
Le 1-888-833-1244. D'accord. Je vais répéter dans le 1-888-833-1244. Donc, c'est la directrice régionale des opérations pour l'Est du Québec. Donc, c'est Mme Lévesque qui s'occupe là, c'est de justement d'expliquer notre offre, faire visiter les logements, expliquer comment avoir justement le revenu abordable, comment s'inscrire et ainsi de suite jusqu'à la signature là, du bail et également l'organisation là, du déménagement.
Parce que dans le bas du fleuve, là, il y a un projet assez important à Rivière-du-Loup, mais vous en avez d'autres à Rimouski et à Mont-Joli.
Puis, exactement.
Puis vous n'avez pas peur de vous afficher, là. Vous avez une ambition de 400 logements dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie au cours des 3 prochaines années. Alors, ça va lever de la terre, là, oui.
Oui, oui, bien, écoutez, il y a beaucoup de demandes, il y a un très grand besoin, je pense, comme vous le savez. On est approché par d'autres municipalités, on est en discussion, il y a même des endroits où ça va très bien, là, on est au niveau de l'acquisition des terrains pour justement d'autres projets dans la région, le bas du fleuve, Gaspésie, qui vont bien, mais ensuite, nous, on regarde aussi potentiellement pour un troisième pôle au Québec. On commence à faire un petit peu plus. On a fait l'Estrie, on a fait Bas du fleuve, Gaspésie, si on veut. Puis là, on commence à regarder où serait le troisième pôle, si on veut. Donc, on est aussi là en discussion avec certaines municipalités, mais c'est pas encore décidé, je vous dirais.
Non, faut pas vendre la peau de l'ours, comme vous dites. Mais l'idée aussi, c'est qu'on remarque que c'est des communautés qui sont d'une taille suffisante pour avoir les moyens de leurs ambitions, puis en même temps, à une dimension qui est humaine où la collectivité et la solidarité est peut-être plus facile que d'aller vers des municipalités là, qui dépassent un demi-million.
Bien, c'est sûr que jusqu'à aujourd'hui, c'est la recette avec laquelle on a eu beaucoup de succès. Il y a une certaine grandeur de municipalité. Comme vous dites, c'est beaucoup des communautés où les gens sont engagés, qui sont intéressés par le projet. Mais à mesure qu'on grandit, nous, on n'est pas fermés à explorer d'autres modèles, différents types de municipalités, de grosseurs, si on veut. Par contre, qu'est-ce qui ne change pas pour nous, c'est ça prend l'engagement de la communauté.
Exactement.
Ça prend des gens qui sont intéressés, ça peu importe. Nous, c'est la première chose qu'on va aller, dans le fond, valider, c'est échanger avec eux, puis voir est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à l'intérêt, par rapport au projet. Puis après ça, on trouve des solutions pour le reste.
Oui, bien, bravo. Ben Madame Roy-Trudel, je vous souhaite bonne chance pour la suite.
Merci.
Je pense que vous avez un bon air d'aller. Là. Je ne suis pas trop inquiet.
Ce sont des beaux projets, mais ce sont aussi, tu sais, on a des excellents locataires, puis on est très heureux de pouvoir là, œuvrer là, dans ce segment. De pouvoir grandir là-dedans parce qu'on le voit presque à tous les jours qu'il y a des besoins clients.
Oui, ça, j'en doute pas. Ben merci, puis on va certainement en reparler.
Excellent. Merci beaucoup, M. Beauregard. Au revoir.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Martine Lévesque. Bonjour, Mme Lévesque.
Bonjour.
Vous êtes professeure à l'École de réadaptation de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives en citoyenneté. Et vous êtes docteur en ergothérapie?
En fait, en santé publique.
En santé publique, d'accord.
Oui.
Et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la recherche que vous menez en ce moment sur les barrières structurelles qui retiennent les femmes handicapées victimes de violences conjugales dans un cycle de violence et vraiment rendent presque impossible parfois leur accès à la sécurité. On en a déjà parlé ici à l'antenne de Sans détour plusieurs fois et on le sait, les femmes en situation de handicap sont beaucoup plus sujettes à être victimes de violences.
Oui, tout à fait. Elles sont connues pour, à travers différents sondages là, au niveau canadien, enquête sur la sécurité dans les espaces publics, enquête sociale générale, pour être environ là, deux fois plus à risque de vivre de la violence. Elle rapporte en moyenne deux fois plus de violences toutes formes confondues là, que les femmes sans incapacité. Là. Donc, c'est un phénomène connu
et
de plus en plus étudié là, dans les dernières années là, dans la littérature.
Et ce qui est terrible, c'est que de l'autre côté, la structure pour les aider ou les structures qui pourraient les aider à se sortir de ce cycle-là et trouver la sécurité sont pas à même de les aider pour des questions d'accessibilité, d'adaptation, et ainsi de suite. Alors, non seulement encore plus souvent victimes, mais encore relativement peu, aidées.
Oui, tout à fait. Les structures, les soutiens dont elles auraient besoin, les appuis à différentes étapes là, de oui. leur trajectoire de sortie sont lacunaires, insuffisantes à différents degrés et pour diverses raisons. Et ça touche une multitude là, de secteurs dans la société et d'organismes et d'identités. Je ne sais pas si vous avez des questions précises.
Je vous laisse aller parce qu'on peut prendre tout le parcours à partir du moment qu'on essaie d'appeler à l'aide. D'avoir un transport, d'être aidé puis d'être recueilli. À chacune de ces étapes-là, il y a des difficultés.
Oui, il y a des embûches à tous les niveaux et elles vont varier en fonction du profil d'incapacité de la femme. Et on est à une ère où on doit produire là, plus de connaissances sur les besoins spécifiques là, de différents profils, comme je vous dis, que ce soit une incapacité liée à une déficience sensorielle, donc de la vue ou de l'audition, les femmes sourdes, les femmes aveugles, ou de l'incapacité motrice, la mobilité réduite, ou encore langagière, vous parlez de communication.
Oui.
Les besoins et les embûches vont se manifester de façon différente et il y a un besoin là, de sensibilisation là, à tous les niveaux pour tous ces sous-groupes de femmes, si vous voulez. Là, ce qu'on sait avec les statistiques, ce sont des données où on a tendance à confondre là, les différents profils de femmes.
Oui, c'est un point de vue validiste de dire que tous les handicaps, c'est le même, là, oui.
Oui. Donc, mais c'est sûr que dans la recherche que nous avons menée en intersectorialité là, avec la Ville de Montréal, le CIUS, Centre-Sud, des partenaires du monde du handicap, dont le regroupement des activistes pour l'inclusion et d'autres, des maisons d'hébergement, on a pu étudier la trajectoire pour essayer d'identifier des façons des embûches, mais aussi certaines stratégies ou solutions qui abordent certains défis particuliers. C'est évident que, comme je vous explique, il y a un univers de connaissances à
oui.
produire et de solutions à identifier pour un ensemble de femmes, mais je peux vous donner l'exemple de la femme sourde. On travaille en partenariat avec la Maison de la femme sourde. Et avec l'expérience qu'elles ont dans l'accompagnement des femmes, on a pu bien comprendre là, la difficulté, l'embûche du point de vue de pouvoir relater son histoire
oui.
correctement à l'enquêteur, le policier qui se présente chez la femme en raison d'une incompréhension, d'un manque de sensibilisation là au besoin d'avoir accès là à une interprète formée en langage des signes
oui.
en langue des signes québécoise et parce que les pratiques habituelles vont négliger là de tenir en compte de ces différences là de ces besoins spécifiques. Et dans le cas de la police, c'est de tendre à vouloir utiliser papier-crayon ou d'avoir gesticulé ou d'utiliser un voisin ou un membre de la famille qui est capable de se débrouiller un petit peu avec le langage des signes, mais ça entraîne toute une panoplie
oui.
de, de conséquences que, au niveau juridique si ça procède à une cause en cours. La femme est très désavantagée à ce moment-là.
Oui,
puis,
tout à fait.
Donc, ça va être ça. C'est un exemple, un profil, un défi, la communication. Et puis, on pourrait passer des heures là, à passer en revue l'ensemble de la problématique, parce qu'on a aussi, évidemment, je le mentionnais, les femmes à mobilité réduite qui
exact.
Ont des besoins en architecture adaptée universellement.
Que le transport adapté soit immédiatement disponible, parce que quand il faut sortir d'une situation dangereuse, c'est pas dans 48 heures, là, c'est maintenant.
Non, c'est ça. On peut pas passer par un système de réservé d'avance.
Non,
son transport adapté, ça ne fonctionne pas dans le contexte de la violence conjugale. À ce niveau-là, nous, à la ville, avec le service de la police de la ville de Montréal et le transport adapté, il s'est développé une entente de service où on va rapidement pouvoir accéder à un transport adapté d'urgence.
D'accord.
Mais c'est une politique qui a été qui est applicable à d'autres contextes, dans le contexte d'incendie, dans des maisons d'hébergement ou des centres d'hébergement, mais qu'on a que les institutions ont pu s'entendre entre elles, entre la police, le transport, s'assurer que ça s'applique aussi dans le cas de la femme en situation de violence conjugale et nécessitant un transport avec un fauteuil roulant, par exemple. Mais c'est le cas de notre projet ici à Montréal, mais en région, c'est loin d'être résolu.
Oui, tout à fait. Dans une région moins densément peuplée, là, cet enjeu-là est plus difficile. Ça, c'est en collaboration avec la Ville, le service de police de la Ville de Montréal, ainsi de suite. Mm-hmm. Et donc, on peut voir une volonté institutionnelle qui a certains moyens. Rendu au centre d'hébergement pour femmes de victimes de violences, là, malheureusement, souvent, ces centres-là ont des moyens pas aussi développés. Et l'accueil, bien que plein de bonne volonté, peut être, peut y avoir des lacunes là aussi.
Oui, définitivement. Il y a des. J'aimerais quand même dire que c'est en mouvement. Il y a énormément de bonne volonté, comme vous le dites, d'efforts qui sont faits. Il y a beaucoup de maisons qui sont en train là, d'investir pour amener des changements là, du point de vue de leur niveau d'accessibilité, de leur mise en accessibilité. Mais jusqu'à l'an dernier, parce que je travaille en collaboration avec le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, et elles ont en fait mis sur pied un beau programme, un projet d'accessibilité justement pour renforcer le système de soutien en maison d'hébergement, les services et l'hébergement. Mais il reste tout de même que plus de la moitié des maisons ayant été sondées ont rapporté qu'elles ont dû refuser des demandes de la part de femmes ou de femmes avec enfants en situation de handicap.
Okay.
Donc, une problématique parallèle là, qui, en raison de problématiques liées à l'accessibilité universelle. Donc, il reste que c'est il y a énormément d'améliorations à faire.
Il y a beaucoup de chemin à faire. Ce qui est heureux, c'est que au moins on s'est engagé dans ce chemin-là, même s'il risque encore d'être long.
Oui, il y a vraiment une. Je crois observer une augmentation là, de la prise de conscience, de l'importance là, de pouvoir répondre aux besoins de toutes les femmes et donc d'efforts qui sont mis. Toutefois, c'est long, c'est lent.
Oui, c'est malheureux. Ben, Madame Lévesque, je vous remercie beaucoup. C'est tout le temps dont nous disposons. On va continuer à aller dans ce sens-là parce que il y a une grande injustice qui doit être, résolue.
Voilà. Oui, puis il faut y aller jusqu'au niveau là, des gouvernements puis des décideurs pour mettre en place là, les bonnes ressources. La complexité du processus pour les maisons, là, c'est pas juste au niveau des maisons d'hébergement,
exact.
Il faut dire, une imputabilité éventuellement au niveau légal là, de
aussi.
Prendre possible les moyens pour les femmes.
Ben, je vous remercie.
Merci à vous. Au revoir.
Merci. Bonjour Patrice Dagenais, comment allez-vous?
Ça va très bien, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci. Ceux qui ne connaissent pas Patrice Dagenais, là, ben, si vous, je vais vous donner un truc. Allez dans le métro à Montréal, vous regardez un peu la télé, parce que Patrice Dagenais, vous êtes maintenant rendu comme le visage, si je peux dire, du paralympisme. Hein, d'une certaine façon, vous avez été mis en vedette dans des publicités nationales. Puis on vous voit, là, fauteuil roulant, dosseur, équipe canadienne, le bras en l'air avec un ballon de rugby en fauteuil roulant. Là, puis vous êtes dans le feu de l'action. Est-ce que les gens vous reconnaissent maintenant?
Oui, ça arrive à l'occasion, mais surtout c'est des personnes que ça fait peut-être des années que j'ai pas parlé, donc des amis du secondaire ou des membres de famille qui
vivent
loin, qui m'envoient des messages pour me laisser savoir qu'ils m'ont vu à la télévision ou dans le métro. Donc je pense que ça fait quand même une très belle visibilité pour notre sport, pour les Paralympiques.
Exact.
Ça a été un succès comme publicité.
Ben oui, tout à fait. Puis on va parler de ça. Juste d'abord, on va parler de qui vous êtes. Pourquoi on vous appelle Pico?
Pico, c'est un surnom qui a commencé quand j'étais quand même très jeune, je pense à l'âge de 8 ou 9 ans.
Oh, OK.
Mon oncle qui avait commencé à m'appeler Pico, je pense, dans une rencontre de famille. Ça a juste vraiment resté avec ma famille, mes amis, même à l'école. J'ai des professeurs qui commençaient à m'appeler Pico. Donc, quand j'ai commencé à jouer au rugby à fauteuil roulant, il y avait déjà un autre Patrice sur l'équipe nationale.
Okay.
Donc, c'était plus facile de continuer à m'appeler Pico. Et je pense que la plupart des gens m'appellent Pico, même dans le monde du rugby. Donc, c'est quelque chose qui a commencé ça fait longtemps, mais ça a resté avec moi.
OK, c'est drôle parce que le rugby en fauteuil roulant, c'est quand même un sport violent. Il y a des contacts chaise à chaise, puis il y a du corps à corps. Là. C'est un sport de... actif, là, c'est pas pour les âmes sensibles. Puis Pico, ben, tu sais, ça fait pas la même représentation, mais c'est comique, c'est bon. Alors, vous en êtes venu à comment vous en êtes venu à connaître le rugby en fauteuil roulant? D'où ça vient? Comment avez-vous fait vos débuts dans l'idée de faire du sport adapté?
Oui, ben moi, j'ai découvert le sport environ en 2003. C'était l'été, au mois de juin en 2003, que j'ai eu un accident. J'ai tombé deux étages en train sur la construction et j'ai fracturé la sixième vertèbre dans mon cou et endommagé ma moelle épinière. Donc, je suis devenu tétraplégique et j'étais maintenant paralysé. Une certaine partie de mon corps était paralysée. Donc, quand j'ai fait ma réadaptation à Ottawa, le club local pratiquait là une fois semaine, les Stingers d'Ottawa. Et c'est comme ça la première que j'ai découvert le sport. Et j'ai été voir une pratique pour voir un peu c'était quoi. Et ça m'a quand même pris deux ans avant de commencer à décider de me lancer dans le rugby à fauteuil roulant. Au début, tu sais, j'avais d'autres priorités. Je voulais essayer de reprendre les fonctions que j'avais perdues, de peut-être recommencer à jouer au hockey, car j'étais un joueur de hockey avant mon accident. Et aussi le documentaire Murder Ball, qui est sorti aussi en 2005, qui parle un peu de la rivalité entre les Américains et les Canadiens dans le sport de rugby à fauteuil roulant. Et c'est là que j'ai découvert que c'est un sport paralympique. Comme tu as mentionné, c'était violent, il y avait du contact. Donc, pour moi, ça me rappelait un peu du hockey. Donc, c'est plutôt en 2005, deux ans après mon accident, que j'ai décidé de donner le rugby à fauteuil roulant une chance. Et depuis ce temps-là, j'ai pas lâché.
Oui, parce qu'à l'origine, le sport qui a été inventé, je pense, à Winnipeg, à la fin des années 70, ça s'appelait le Murder Ball. ça dit tout. Hein? Ça... Parce que l'idée qu'on se fait du rugby, c'est le rugby classique qui se joue avec 15 joueurs sur un terrain en gazon dehors, on a une assez bonne image de ce que ça peut être. Mais le rugby en fauteuil roulant, il y a beaucoup de différences quand même. Ça ressemble à du basket, ça ressemble à du deck hockey, ça ressemble à beaucoup de choses, pas juste à du rugby.
Exactement. C'est un sport quand même très différent que du rugby qu'on va jouer à 15 dehors. Nous, c'est un sport qui joue à 4 contre 4 sur un terrain de basketball et avec un ballon qui ressemble à un ballon de volleyball. Et pour faire un point, il faut traverser la ligne adverse avec le ballon.
D'accord.
Donc, qu'est-ce qui rend notre sport très semblable au rugby? C'est que c'est un sport de contact. Donc, on utilise nos coéquipiers pour faire des blocs sur le terrain, ouvrir des ouvertures, créer des ouvertures pour finalement aller compter un point. Oui, c'est agressif. Oui, ça peut être un peu violent. Mais c'est un sport qui est quand même très populaire pour un sport parasport dans le monde.
Oui, parce que c'est pour avoir assisté à des matchs dans le cadre évidemment du tournoi paralympique qui a eu lieu à Paris il y a encore juste quelques semaines, dont vous étiez avec l'équipe canadienne, c'est le jeu change de côté rapidement. Là, tout d'un coup, il y a un ballon qui est intercepté, il y a une longue passe qui est faite, il y a un joueur qui est découvert. Puis on pensait qu'une équipe allait marquer, puis tout d'un coup, c'est l'autre qui va marquer des points. Puis on peut voir les stratégies aussi se développer sur le terrain, comme vous dites, là, mettre votre fauteuil en travers du trajet d'un adversaire pour l'empêcher d'aller dans une zone libre, ainsi de suite. Là. C'est pas au hasard que toutes ces choses-là sont faites. Il y a une autre particularité, je pense, du rugby en fauteuil roulant que j'ai trouvé intéressante, c'est que vous êtes obligé de dribbler le ballon un petit peu.
Oui, donc il y a des règlements pour augmenter la vitesse, comme que tu as mentionné, c'est un sport très rapide. Genre, il faut traverser la demi à moins de 12 secondes et faire un but à moins de 40 secondes, mais aussi de dribbler ou faire une passe à moins de 10 secondes.
Oui.
Donc, c'est un des règlements pour prendre un rebond ou une passe, sinon ça va être un revirement, le ballon va aller à l'autre équipe.
Exact. Puis ça, parce que sinon, un joueur pourrait simplement déposer le ballon sur ses cuisses, puis
ouais,
s'arranger pour tourner le dos à tout le monde, là, puis essayer de protéger le ballon. Mais ça serait autre chose, là. Ça serait plus...
Exactement.
Ça serait
mal. Le règlement, il crée un peu plus de revirement, car le joueur va être sous pression quand il doit dribbler ou faire une passe. Donc, c'est pour créer un peu plus de revirement dans le jeu.
Patrice, vous avez eu vraiment une belle carrière, là. Vous avez été médaillé à plusieurs reprises aux Jeux Paralympiques aux championnats du monde, aux Jeux paralympiques. Vous avez représenté le Canada à plusieurs reprises. Là, vous avez ça fait quand même pas loin de 15 ans là, que vous êtes membre de l'équipe nationale. Comment ça va la relève? Dans vos réclames publicitaires, on vous voit comme initier des jeunes au rugby en fauteuil roulant, mais au jour le jour, est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs qui se pointent? Parce que là, vous êtes plus en fin de carrière, si je peux me permettre de le dire.
Non, exactement. J'ai participé à 4 Jeux paralympiques, donc je suis en réflexion si... je vais me lancer pour un autre 4 ans.
Un autre cycle,
ouais. Dans un autre rôle, oui, exactement. Mais en même temps, tu sais, moi, je suis entraîneur de mon équipe à Ottawa, donc je fais mon possible pour essayer de recruter aux alentours et de développer des nouveaux joueurs. C'est un sport que je dirais que la relève est pas énorme. C'est quelque chose que l'organisation nationale veut se concentrer sur une priorité dans les prochains mois, dans les prochains 2 ans, d'essayer de développer, de trouver de nouveaux joueurs, car la plupart de nos joueurs dans notre équipe sont à un âge un peu plus élevé et pensent peut-être éventuellement à accrocher le fauteuil roulant, comme on pourrait dire.
Oui, oui, exact.
C'est un sport aussi qui, pour ton handicap, pour être éligible, pour avoir un handicap qui affecte au moins 3 membres.
Oui.
Donc, c'est pas tout le monde qui peut jouer à ce sport-là.
Exactement.
C'est un tétraplégique, un quad amputé, différentes aussi de conditions qui peuvent te permettre de jouer, mais c'est pas, il n'y a pas un très grand bassin de joueurs qui sont éligibles à notre sport.
Et est-ce qu'il y a des risques de blessures? Parce qu'avec les chocs chaise contre chaise, ou quand un joueur essaie de faire une passe, puis il y a le bras en l'air, les autres joueurs, évidemment, les adversaires essaient de bloquer la passe, ainsi de suite. Est-ce que, à prime abord, on pourrait penser qu'il y a un risque de blessure? Mais là, je ne dis pas ça pour décourager personne de l'essayer.
Non, ben je pense que comme n'importe quel sport, il y a toujours des risques de blessures. Honnêtement, le fauteuil il protège très bien.
Oui.
On est attaché, donc quand on se fait frapper, c'est plus le fauteuil qui prend l'impact. Même comme dans n'importe quel sport, tu sais, il peut y avoir des blessures ici et là. J'ai eu un mal d'épaule pour environ un an l'année passée, donc ça va arriver. Des fois, tu peux te cogner les doigts, cogner la tête un peu si tu tombes. Donc, il y a toujours des risques, mais en gros, ça fait comme si c'était environ 15 ans que je joue, et j'ai jamais eu de blessure majeure qui m'a mis à l'écart pour pour très longtemps. Des petits bobos ici puis là, c'est sûr que quand ça fait tellement longtemps que tu joues que...
Oui, à un moment donné, il y a comme on a on a une petite liste de choses qui traînent, là. Mais ça, c'est un peu normal. Je partage votre vécu un petit peu parce que moi, je joue au hockey pour personnes handicapées visuelles, là, depuis 20 ans. Puis, c'est ça. Je vous comprends tout à fait. Votre présence dans les médias, tout ça, dont on parlait au tout début, les Paralympiques qui ont été quand même assez largement diffusés dans les médias au mois d'août, début septembre, vous devez sentir que le public, dans un sens plus large, commence à accepter qu'il y a des athlètes qui ne sont pas ceux qu'on voyait avant.
Non, ça, c'est certain. Même que, tu sais, à Paris, tous nos matchs étaient salle comble. Donc, on avait 8 à 9 000 personnes dans la foule. C'était bruyant. Il y avait l'énergie était incroyable. Donc, on pouvait sentir l'appui, le support de nos familles, des Français qui ont venu nous encourager. Donc, on peut voir que les Paralympiques deviennent de plus en plus populaires. Moi, c'est sûr, j'étais en France pendant les Jeux. Donc, au Canada, j'ai entendu dire par des amis et des familles que la couverture était très bonne à la télévision, qu'on voit de plus en plus de différents sports. Je me suis fait dire que le monde apprécie découvrir des nouveaux sports et apprendre un peu l'histoire des Paralympiens. Donc, on s'en va sur la bonne direction. C'est sûr qu'on n'est pas encore au pied d'égalité avec les Olympiques, mais au moins, on s'en va à la bonne direction et à chaque année, on semble avoir de plus en plus de couverture médiatique.
Ben bravo. Je sais qu'une partie de votre temps est consacrée. Vous allez dans les écoles, vous allez rencontrer les jeunes, ceux qui sont en situation d'handicap, mais la population en général. Alors, vous passez du temps justement à faire d'éducation populaire.
Oui, c'est sûr que j'aimerais donner à la communauté, surtout ici. Moi, je demeure à Embrun, Ontario, donc c'est quand même une petite communauté. J'ai quelques écoles à visiter dans les prochains mois, donc c'est important pour moi de parler de mon histoire, de parler des Jeux paralympiques, l'importance que ça a pour moi et pour d'autres personnes. Et c'est quelque chose que j'apprécie faire. Et des fois, ils ont fait des démonstrations de rugby aux écoles et les enfants ont la chance de jouer. Donc, c'est un sport que vous pouvez imaginer. Ils sont dans un fauteuil où ils ont la chance de frapper leurs amis ou leurs professeurs. Ouais. Donc, ils ont beaucoup de plaisir à jouer. Mais c'est ça. Non, c'est important pour moi de redonner car c'est un sport qui est fait... qui m'a tellement aidé après ma réadaptation à me fixer des objectifs et à pouvoir vraiment vivre une belle vie dans le monde du sport. Donc, j'essaie de plus en plus à laisser la chance à d'autres personnes aussi de pouvoir vivre cette expérience-là.
Alors, vous avez commencé comme joueur recrue chez les Stingers d'Ottawa il y a presque 20 ans maintenant. Là, vous êtes coach des Stingers d'Ottawa, hein? Alors, ouais. C'est comme vous avez vraiment traversé toutes les étapes. Le prochain championnat canadien, ça va être dans quelle ville?
C'est pas déterminé encore. Okay. Il y a des très bonnes chances que ce soit à Montréal.
Oh, OK.
Mais en même temps, c'est pas confirmé. Ça pourrait faire partie du défi sportif.
Ah oui, je comprends.
Les détails sont encore pas confirmés et sortis, mais c'est très possible. Mais sinon, il y a toujours des tournois un peu locaux. Il y en a un à Longueuil au mois de décembre qui s'en vient. Donc, et pour l'équipe canadienne, je pense que le tournoi de préparation, ça va être un tournoi de qualification qui va avoir lieu au Brésil au mois de juillet.
D'accord.
Et ça va être pour se qualifier pour les prochains championnats du monde qui vont avoir lieu aussi au Brésil en 2026.
Donc, d'accord. Mais là, vous, personnellement, là, vous êtes dans une réflexion avant d'entreprendre un autre cycle. Alors, il y a du rugby en fauteuil roulant à Longueuil, sur la rive sud de Montréal, au mois de décembre.
Hein? Alors, oui, ceux qui sont au 15
décembre. Oui. Oh, parfait, ça. Et donc, ceux ou celles qui sont intéressés à aller assister à du rugby en fauteuil roulant, parce que, un, c'est un sport qui est plaisant à regarder. Puis, deuxièmement, peut-être que c'est pour des gens qui ne savent plus exactement où est-ce qu'ils se situent dans le niveau sportif, peut-être suite à un accident qui a affecté leur corps, ainsi de suite, ben peut-être que ça peut être l'occasion, comme un peu comme vous l'avez fait il y a 20 ans passé, à découvrir une nouvelle voie. Ben Patrice, merci beaucoup.
Ça me fait très plaisir.
Puis on va suivre votre carrière, on va suivre le rugby en fauteuil roulant et on espère que l'équipe canadienne va continuer à bien faire.
Bien, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Merci. OK, toi aussi, là.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Et voilà, nous sommes de retour. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie, et je dois le dire, quelqu'un que je connais bien, alors ça se peut qu'on se tutoie, Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kérol. Bonjour Isabelle.
Bonjour. C'est vrai que c'est difficile de se voir.
Oui, bon, ben, on va se sentir bien à l'aise. Il n'y a pas de souci. Ben, là, aujourd'hui, on va parler d'un projet pilote de taxi adapté qui a été... mis de l'avant par Kérol,
oui,
et la compagnie Taxelco, ça c'est Théo Taxi, Taxi Diamond et plusieurs autres,
mm-hmm,
dans la grande région de Montréal. Et c'est intéressant parce que le transport adapté est un sujet de préoccupation constant, quotidienne, oui.
Effectivement, tu sais, le transport adapté a sa raison d'être. Hein, on l'enlève. J'espère qu'on l'enlèvera jamais de l'écosystème du transport parce qu'il est nécessaire pour plein de raisons, parce qu'il est moins cher, parce qu'il est du porte-à-porte, parce que il rassure les gens, etc. Par contre, il a ses limites. Par exemple, à Montréal, on est chanceux, il y a une politique de zéro refus.
Oui.
Donc, si on appelle jusqu'à 9 heures la veille, on peut l'avoir le lendemain sans problème. Quand on arrive en région, il y a plein de régions,
oui,
ou de villes, de villages, soit qui n'ont pas de transport adapté, soit qui en ont, mais disponible seulement la semaine, disponible seulement, certains même seulement pendant le jour, pas le soir.
Ou pour certaines raisons et pas pour d'autres.
Exact.
Il faut que ce soit absolument un rendez-vous médical là, ou des choses de ce type-là, mais il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de famille.
Effectivement. Donc, ça a ses limites, autant pour la personne qui vit dans cette région-là, dans cette ville-là, mais ça a ses limites aussi pour le voyageur.
Oui.
Comme Kérol travaille beaucoup pour faire venir faire voyager les Québécois au Québec,
oui,
mais faire aussi venir des touristes au Québec pour faire bouger les gens, mais aussi faire bouger l'industrie touristique et la rendre de plus en plus accessible. Ben, ça allait de soi que ça prend un transport qui est disponible pour les gens
partout,
quand ils en ont besoin.
Oui.
Le fondateur de Kérol, André Leclerc, a travaillé pendant, je pense, 8-10 ans avec le bureau de taxi pour qu'on ait un service de taxi disponible. À l'époque, on travaillait pour à l'intérieur de 30 minutes. Et malheureusement, avec la nouvelle loi sur le taxi qui est arrivée en 2019...
Oui, qui a fait exploser l'industrie, oui.
Exactement, et qui a fait que le bureau de taxi n'avait plus le droit d'exister. Donc, Montréal devait être traité comme les autres villes. Alors, heureusement pour nous, Taxelco a entendu une de mes allocutions et a dit, ben nous, on va l'essayer, ce projet-là. Là, on s'est assis ensemble, on s'est demandé, en fonction de la flotte de taxis disponible à Montréal, en fonction des demandes qu'on pensait qu'il pouvait y avoir, qu'est-ce qui était raisonnable. Alors, c'est Taxelco vraiment qui gère ça.
D'accord.
Mais avec nous, bien sûr, on a pris les décisions de comment c'était pour fonctionner. Donc, c'était très important pour nous que ça soit au même coût qu'un taximètre, n'importe qui d'autre.
Ordinaire, oui, tout à fait. Ben oui, parce que...
Il n'y a pas de frais supplémentaires.
Il ne faut pas être puni, là. Ouais.
Et le chauffeur doit absolument faire comme avec un autre client, c'est-à-dire on part pas le taximètre avant de nous embarquer puis d'attacher le fauteuil. On part le taximètre une fois que le chauffeur est assis et prêt à partir.
Exact.
Et on l'arrête dès qu'on est arrivé à destination, pas une fois qu'on a détaché le fauteuil roulant puis qu'on est rendu dehors.
Tout à fait.
Et
il faut aussi prendre en considération prendre le bon chemin, puis aller au bon endroit, puis ainsi
exact
de suite, là, pas faire des balades.
Puis l'avantage, moi, je trouve, ou l'autre avantage que je trouve aussi, c'est qu'on a le choix de soit le faire par téléphone, par Internet, par application mobile.
Okay.
C'est vraiment aussi, ça prend en considération les capacités de tout le monde. Oui. On n'est pas tous capables d'aller taper une adresse
sur le net ou l'utilisation d'un téléphone mobile n'est pas toujours évidente.
Exactement. Donc, contrairement à jusqu'à ce que le projet pilote commence le 10 juillet, où là, on appelait une compagnie de taxi, puis la majorité du temps, on nous disait, ben il faut appeler 24 heures à l'avance ou il faut appeler.
Oui.
Là, on est dans un monde où on peut appeler comme monsieur et madame tout le monde.
En moins d'une heure.
Ils s'engagent, c'est ça, en moins d'une heure. Donc ça, c'est gros, là. C'est une grosse différence.
Oui, puis en même temps, d'avoir un service... je dirais au même titre que le reste de la population.
Exact. Hein?
On ne demande pas d'être transporté gratuitement. On veut juste être transporté comme tout le monde.
Exact. C'est pour ceux qui ont la capacité financière, pour ceux qui ont une aide financière ou peu importe, et qui sont capables de se payer un taxi, bien, c'est disponible. Puis ça, c'est un, comme je disais tantôt, un n'empêche pas l'autre. Le transport adapté
ne
doit pas éliminer le service de taxi qu'on peut payer nous-mêmes et vice-versa.
Mais on peut penser que le fait que des usagers qui puissent que des usagers de transport adapté puissent préférer un mode plus flexible et sont prêts à débourser de leur poche, ça va de fait créer un peu d'espace pour le reste des usagers du transport adapté public.
Exact, parce qu'il y a des gens qui attendent là pour pouvoir utiliser le taxi le service de transport adapté. Mais effectivement, ça peut libérer un peu plus de place, ça peut peut-être faire qu'il va avoir moins de ce qu'on appelle entre nous là, la run de lait là, on va chercher puis déposer plusieurs personnes en passant. Mais s'il y a moins de demandeurs, bien, naturellement, peut-être que...
Ça augmente la quantité totale d'offres de services.
Exact. Et pour l'instant, ça prouve vraiment... il y a à peu près les dernières statistiques qu'on avait vérifiées avec Taxelco, il y avait eu à peu près 500 courses de fête.
Oh, OK.
Déjà, dans la première semaine, il y avait le double de demandes de d'habitude. Puis un taux de ponctualité de 90% pour les gens qui appellent en dernière minute.
D'accord.
Puis le temps d'attente moyen était même 30 minutes, c'était même pas l'heure.
Oh. Donc c'est pas mal.
C'est assez concluant.
C'est sûr que c'est dans une période où la température est clémente, là. Peut-être que l'hiver. Oui. Mais l'hiver, c'est mauvais pour tout le monde, alors.
Mais là, l'idée de faire ce projet pilote-là, c'est que en ce moment, justement, avec le changement de la loi. Mais ce qui existait avant dans les obligations et dans les aides financières aux gens qui voulaient acheter un véhicule puis le faire adapter, ça n'existe plus. Fait que là, ce qu'on veut prouver, c'est que c'est un besoin, c'est utilisé, et donc qu'il devrait y avoir une aide financière qui revient par le ministère du Transport.
Parce que,
parce
que pour l'instant, les taxis qui rendent ce service-là sont des taxis qui sont déjà adaptés. Là.
Exact.
Est-ce que les chauffeurs, ils trouvent leur compte? Parce qu'on ne veut pas que les chauffeurs, décrochent du système. Parce qu'ils vont dire, oui, mais si ça m'est payé de la même manière qu'une course ordinaire, mais que j'ai... faut que je suive une formation. Mais s'ils ont un véhicule adapté, la formation, ils l'ont déjà probablement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça leur demande peut-être un petit peu plus d'efforts. Est-ce qu'ils sont rémunérés de la même manière?
En fait, nous, c'est ça qu'on veut aussi dans ce qu'on va faire après avoir fini le projet pilote. On va travailler avec Taxelco pour justement faire l'analyse de tout ça puis dire... Ben, par exemple, un chauffeur de taxi qui s'engage à faire du taxi à la demande comme ça, ben, par exemple, il va y avoir une compensation en partant. À chaque fois qu'il fait une course avec quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il va avoir un montant qui lui est donné parce que la course prend un peu plus de temps. Il y a des modalités à voir parce qu'il y a des exemples à suivre aussi, là, ailleurs au Canada puis aux États-Unis. Fait qu'il va avoir une évaluation à faire sur qu'est-ce qui est le plus rentable, qu'est-ce qui est le plus approprié autant pour le chauffeur que pour l'utilisateur, puis pour que tout le monde soit gagnant là-dedans, puis que personne semble qu'il perde quelque chose. Parce qu'on le sait, en ce moment, la majorité des chauffeurs de taxi accessibles sont pris par les compagnies de transport adapté comme
exact.
La STM.
Ouais.
Parce qu'ils ont un contrat fixe.
Tout à fait.
Et donc, ils savent qu'ils vont avoir quel revenu ils vont avoir.
Tout à fait. Alors, mais c'est pour ça qu'ils... Parce que je me suis permis de discuter du projet pilote avec des amis que j'ai qui sont des chauffeurs de taxi et qui font du transport adapté public. Ils étaient très intéressés au concept, mais ils ont dit, mais il faut s'assurer que les chauffeurs, ils trouvent leur compte, parce que sinon, éventuellement, ils vont décrocher, ils vont dire, oui, mais c'est moins payant qu'une course ordinaire, puis c'est plus de tracas, ou ceci, ou cela. Et là, à ce moment-là, il n'y aura plus beaucoup de gens qui vont être prêts à participer à un programme comme celui-là.
Effectivement. Donc, il y a une réflexion, c'est sûr, là, plus approfondie
exact.
Par la suite. Là, on est en train de voir que vraiment, il y a une demande.
Oui.
Puis il y a un besoin.
Tu disais 500 courses depuis le 10 juillet?
Oui.
D'accord. Ça, c'est quoi? C'est des chiffres qui datent quand même quelques jours, quelques semaines?
Oui. C'est pas des chiffres là, d'hier. Là.
Non, d'accord.
C'est comme juste de savoir que dans la première semaine, ça avait doublé déjà, c'est intéressant.
C'est beaucoup, oui, tout à fait.
Puis, tu sais, moi, personnellement, je peux vous dire que je l'ai utilisé plus d'une fois. Juste, par exemple, vous le savez, je pense, les auditeurs, c'est depuis le temps que je fais des chroniques avec Canal M, je parle tout le temps de bouffe.
Oui, ben, gastronomie, culture, tourisme, voilà.
Voilà, et le nombre de... Ça fait quand même quelques fois là, que je suis tellement contente de ne pas dépendre du transport adapté pour le retour.
Oui.
Je manque pas mon dessert parce que...
Il faut partir.
Oui.
Ou parfois c'est gênant parce qu'on est à table puis tout le monde est parti puis on attend encore dans l'établissement parce que notre transport n'est pas encore arrivé. Là aussi, des fois, c'est un peu élastique.
Ouais. Oui, donc là, tu sais, je peux dire quand je suis rendu au dessert, là, j'appelle le taxi. Puis là, j'ai le temps de manger mon dessert puis payer ma facture puis il s'en vient. Fait que tu sais, c'est des... Puis je l'ai utilisé aussi pour un rendez-vous de dernière minute. On m'a appelé, on m'a dit on aurait de la place pour vous donner une résonance magnétique cet après-midi. Seriez-vous disponible?
Oui, là c'est possible parce que, comme on dit, on peut agir tout de suite. Et dans le fond, c'est une liberté et une flexibilité qui existe pour tous et toutes. Hein? Voilà. Alors c'est juste normal en fait. Ce sont des gestes qui sont normaux, ça, de pouvoir dire « Ah, il me faut un taxi dans la prochaine demi-heure. Est-ce que je peux en avoir un? » C'est des choses que toute la population connaît assez bien, surtout en milieu urbain, du moins.
Moi, ça fait longtemps que je dis, je vais dans des villes des fois, puis je me sens plus chez moi.
Oui.
Parce que justement, je peux prendre appeler un taxi puis l'avoir dans la demi-heure. Je peux, tu sais, c'est comme pourquoi je peux pas faire ça chez moi.
Exactement.
En ce moment, je peux.
Voilà. Alors, le 10 octobre, l'expérience se termine. Là, vous allez colliger Taxelco et Kérol, vous allez colliger toutes les données, prendre le pouls de tous les intervenants, voir comment ça a été reçu. Et là, il s'agit de porter ça au gouvernement aussi pour que...
Effectivement. Donc, il faut l'utiliser pour montrer qu'il y a vraiment une raison d'exister.
Oui.
Pour que nous, après ça, on puisse dire, regardez, les gens l'utilisent. Et il faut que ça continue, puis aidez-nous à ce que ça continue.
Alors, on peut prendre un rendez-vous en ligne. Ça se fait très bien. On peut aller sur to.taxi.
Oui.
On clique sur le mode de transport et sélectionner van adapté dans le menu. On peut également aller...
On peut appeler le 514-322-5160. 514-322-5160. L'option 5.
L'option numéro 5 dans le menu. Voilà. Bon, mais ça va nous permettre de le faire. Puis il y a une application mobile aussi, Théo. Alors là aussi, on peut retrouver l'onglet Van Adapté. Alors d'ici au 10 octobre, on sort.
Oui. Hein,
puis on prend le taxi du programme Van Adapté de Taxelco.
Oui.
Et puis de cette manière, parce que de toute façon, d'ici le 10 octobre, on sortirait. Hein? Voilà.
Ben voilà.
Tout simplement. Ben merci beaucoup, Isabelle. Je suis vraiment intéressé. Ça va être vraiment un suivi important à faire, de voir comment tout ça va se dérouler, va se jouer dans les prochaines semaines, les prochains mois, après le 10 octobre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À bientôt.
Bye.
Bye-bye.
avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Cathy Bergeron. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'organisme La Marée.
Oui.
Organisme qui existe depuis 33 ans. Alors, ça fait longtemps que vous faites du bien dans la région de la Malbaie, Charlevoix. Et aujourd'hui, on va parler des capsules vidéo que vous venez de mettre en ligne, de créer, qui sont particulièrement destinées aux jeunes proches aidants. Et ça, c'est vraiment un groupe de personnes qui sont un petit peu oubliées dans la proche aidance.
Oui, tout à fait. Ben c'est ça. On s'est attardé un peu à cette clientèle-là parce que force est de constater que les jeunes peuvent être très tôt impliqués dans la prise en charge d'un proche qui vit une problématique en santé mentale. Puis on se rendait compte également que les jeunes ne se reconnaissent pas nécessairement comme un jeune proche aidant et par la force des choses, viennent pas consulter là dans nos ressources là. Alors, c'est pour ça qu'on a eu un souci de se préoccuper de ces jeunes-là.
Et ces capsules-là que j'ai eu le plaisir de visionner, d'abord, je peux vous dire qu'elles sont très bien faites. en termes de qualité de production, l'image, le message passe très, très bien. Des gens ont déjà eu le plaisir d'aller dans la région de la Malbaie, ils vont reconnaître tout de suite que c'est à la Malbaie.
Oui.
Parce qu'il y a des beaux paysages, puis on voit l'escalier qui descend sur la grève, là, puis tout ça. Là. J'avais l'impression d'être retour en vacances. Mais cela dit, ces capsules-là, est-ce que ça fait longtemps qu'elles sont disponibles?
Non, ben en fait, nous, le projet est à sa troisième phase, là, dans
D'accord.
le fond, à l'utilisation de ces capsules-là, puis à la mise en ligne. Dans le fond, ils sont pas encore en ligne sur notre site Internet, là, ça va venir dans les prochaines semaines.
D'accord.
Par contre, ils sont disponibles là, déjà auprès de nos intervenants pour aller sur le terrain, rencontrer les jeunes là où ils sont, puis faire de la sensibilisation là avec ce bel outil-là, là. Le projet de capsule vidéo.
Donc, vous allez pouvoir aller dans les institutions, pouvoir disséminer ou faire en sorte que cette capsule ou ces capsules-là soient visionnées. Parce que, en fait, les trois capsules, c'est un peu la même histoire qui est en trois chapitres.
C'est exactement.
C'est comme trois histoires ou trois chapitres d'à peu près 3 minutes et demie d'écouter les trois en rafale, si je peux dire. Ça donne une belle histoire en 10 minutes. Dans vos interventions que vous faites à la Marée, quel est votre rôle? Comment vous vous situez dans l'univers d'intervention en santé mentale dans votre région?
Bien, c'est sûr que nous, on a, dans le cadre de nos services au sein de la Marée, on a un beau volet jeunesse qui s'adresse aux jeunes de 6 à 17 ans. Puis à l'intérieur de ce beau volet jeunesse-là, bien, on fait à la fois de l'intervention individuelle auprès des jeunes, on fait également de l'intervention familiale auprès des parents, on fait aussi des ateliers de groupe avec les jeunes dans différents groupes d'âge là pour bien les situer. On fait un camp de jour également, des activités de répit, parce qu'on sait que ces jeunes-là ont besoin de répit également pour se sortir là, de cette problématique-là qu'ils vivent au quotidien. On fait des activités découvertes. Alors, on a plein de services là, qui est mis en place là, pour aider nos beaux jeunes là, dans le cadre de notre volet enfance jeunesse à la Marée.
Parce que c'est pas évident pour une adolescente dont, mettons, la mère ou le père vit des problèmes de dépression profonde, chronique, ou d'autres formes de problématiques de santé mentale, ça crée beaucoup d'isolement. On ne veut pas inviter ses amis à la maison.
Non.
On est un peu gêné, ainsi de suite. On a tendance soi-même à se replier. Alors, est-ce que la meilleure façon de rejoindre ces jeunes-là, est-ce que c'est par le milieu scolaire?
Oui, par le milieu scolaire, par le milieu des maisons des jeunes, par les intervenants aussi sur le milieu, là, parce que il y a les jeunes qui vont se reconnaître probablement à travers le projet de capsule vidéo, mais il y a également l'importance du référencement précoce qui peut se faire à la fois par les professionnels de la santé et des services sociaux, mais également de l'éducation. Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration là, avec des professionnels, parce que c'est aussi notre rôle d'adulte de repérer, de comprendre, d'encourager les jeunes à prendre soin d'eux, les accompagner vers une ressource d'aide comme la Marée et comme bien d'autres associations là, qui existent. On est 50 associations qui existent là, à travers le Québec là, qui viennent en aide justement aux membres de l'entourage.
D'accord. Et oui, et ça peut être au moment où la prise en charge du parent qui a une problématique de santé mentale, bien là, en s'interrogeant un peu sur le milieu familial et les ressources, bien, il va peut-être apparaître que la première ressource, ça va être quelqu'un qui a 14 ans qui est à la maison.
Mm-hmm.
C'est là qu'il va falloir aussi aider cette personne-là. Tout à fait. Vous allez diffuser ces capsules-là sur YouTube, TikTok?
Oui, tout en fait, on sait que les jeunes, hein, ils sont beaucoup sur les plateformes, un peu moins sur Facebook, là. Alors oui, tu sais, il y a bien sûr notre site internet qu'on essaie de promouvoir le plus possible, mais on va aller là aussi sur les plateformes où se trouveront les jeunes. Alors on va se faire une chaîne YouTube, TikTok. On va aller là où ils sont. Le but, oui, c'est de repérer le plus de gens possible, puis que ça ait aussi pas juste une portée dans notre région, la belle région de Charlevoix, mais également une portée là à travers là, tout le Québec, là, parce que c'est ça un peu le but aussi, là, d'offrir des services aux jeunes proches aidants à travers tout le Québec, là.
Ben oui, parce que une fois que c'est rendu sur une plateforme de ce genre-là, il n'y a plus de limite. Vous n'êtes plus dans une MRC, là. Hein?
Exact. C'est ça notre plus grand souhait, là, c'est que les jeunes ils se reconnaissent et qu'ils puissent là, aller vers des belles ressources là, comme la nôtre.
Ouais. D'accord. Mais comme les jeunes qu'on voit dans vos capsules, ce sont des gens de la région? Parce que aussi bon qu'ils soient-ils ou soient-elles, on n'a pas l'impression que ce soit nécessairement des comédiens et comédiennes professionnelles.
Non, exactement. Ils ont été là recrutés là de par celui qui a conçu nos capsules vidéo. Fait que c'est vraiment des jeunes de la région qui ne sont pas nécessairement des membres de l'entourage, qui ont bien voulu se prêter au jeu et puis soutenir notre cause là pour rejoindre les jeunes. Alors je dois là vraiment souligner le jeu d'acteurs,
oui,
de ces jeunes
acteurs
là dans les capsules. C'est on sent vraiment leur émotion, puis c'est ça le but, là, c'est qu'on vive une émotion. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais juste par le visuel, par l'émotion, par le choix de la musique, tout est là pour qu'un jeune puisse se reconnaître.
Bravo, exact. Et à la Marée, qu'est-ce que vous faites à part du volet jeunesse? Vous faites beaucoup d'autres choses.
Oui, tout à fait. Ben nous, on s'adresse à tout membre de l'entourage,
exact,
dans le fond, et on accompagne, on soutient les proches qui vivent une problématique d'une personne qui vit une problématique en santé mentale. Puis voilà, nos services, là, c'est un peu comme dans le volet jeunesse, l'intervention psychosociale. On offre des activités de sensibilisation, des activités de répit, des groupes d'entraide. On a aussi un service de père aidant famille. On offre de la formation, des conférences, des ateliers. Alors il y a beaucoup de service là, au sein de notre organisation.
Oui, parce qu'après 33 ans, là, vous n'avez pas pensé à ça hier matin, ça c'est sûr. Dans les jeunes, vous avez été capable quand même d'aller en rejoindre puis d'en aider depuis, je vois ça sur votre site, que depuis 2012, il y en a déjà une, oui, centaine qui ont été aidés par la,
oui,
Marée.
Oui.
Vos bureaux, il y en a à La Malbaie, à Baie-Saint-Paul.
Exactement, c'est ça. On couvre tout le territoire de Charlevoix et puis il y a un peu plus de 100 jeunes là, qui ont utilisé nos services là, depuis l'implantation de notre volet jeunesse là, en 2012.
D'accord. Puis ça, c'est un suivi qui doit se faire à long terme parce que c'est,
exact,
des fois, c'est peut-être juste une rencontre, mais la problématique elle-même ne disparaît pas. Alors, ça des fois, ça ne va pas en s'allégeant.
Non, exact, c'est ça. Puis on voit vraiment, c'est sûr qu'il y en a qui viennent pour une rencontre, il y en a qui viennent pour plus des activités de répit. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il y a des jeunes qui nous suivent depuis plusieurs années.
D'accord.
Puis maintenant, il y en a qu'on rencontre dans leur vie d'adulte maintenant parce qu'ils sont des jeunes adultes. Puis c'est, voilà, c'est là qu'on peut voir l'impact qu'on fait sur ces jeunes-là à long terme. Là.
Ah, fait ben, que, c'est bien. Bravo, Mme Bergeron. Merci à la marée. On ira sur YouTube, TikTok pour voir ces capsules-là, encore une fois, qui sont magnifiques et très... Elles vont direct au but. Alors, ça va faire des petits chaussures. Merci.
Merci à vous.
Voilà, eh bien, c'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois, merci Claire Guérin à la recherche, Mathieu Tessier à la technique. C'est François Beauregard qui vous dit à la prochaine, et cette fois, ce sera en direct. Merci, lundi prochain, 13.